Donc, je vais passer maintenant la parole à Isabelle Starquier. Donc, Isabelle, vous êtes ancienne élève de l'ENS, agrégée de lettres modernes, maître de conférences HDR en études théâtrales à l'Université d'Évry. Vous êtes également metteur en scène, comédienne et directrice de compagnie. Vous travaillez en recherche-création sur l'articulation entre théorie et pratique, en faisant se croiser vos mises en scène, une quarantaine, et votre recherche. Vos axes de travail sont multiples, l'adaptation des grandes figures littéraires, la notion de jeune ou tout public, le grotesque, l'interdit de la représentation, la médiation artistique, etc. Vous êtes membre du laboratoire SLAM, associé au laboratoire Sacre, et vous avez rédigé plusieurs ouvrages, dont la recherche-création « Savoir ou savoir-faire », publié en 2021 aux éditions de l'Entretemps. Et donc, vous dirigez la compagnie Isabelle Starquier avec tous vos partenaires de scène. Vous avez imaginé depuis la pandémie de nombreuses formes théâtrales alternatives, dont les escape théâtres, et c'est ce dont vous allez nous parler à travers le prisme d'une nouvelle forme théâtrale didactique. Et je vous donne la parole.
Oui, merci beaucoup pour cette introduction. J'ai honte de parler après tout ça. Voilà, donc bon, l'escape théâtre, je voulais un petit peu remettre ça en situation avant, pendant, après, parce que comme tout le monde, avant, pendant, après la pandémie, mais pas que. C'est-à-dire que je pense que le avant, il vient de bien avant, c'est-à-dire que moi, je suis issue d'une génération profondément marquée d'abord par Champvillard et son théâtre populaire, et puis ensuite par Antoine Vitez et son théâtre élitaire pour tous. Oui, je fais pas mon âge. Déjà là, il y a très longtemps. Alors, malheureusement, dans les années 80, sur le terrain où se joue le théâtre, je me suis aperçue en fait qu'il y avait un côté qui était le côté court, la cour des grands, qui s'accaparait l'appellation contrôlée de théâtre et qui se réfugiait de plus en plus dans l'entre-nous et, je dirais, dans la quête effrénée de nouvelles esthétiques, poussant par là vers un théâtre de plus en plus expérimental, cherchant parfois même les frontières de la théâtralité vers la performance, qui en soi est très bien, mais qui effectivement à vider beaucoup les salles. Et de l'autre côté, donc côté jardin, si je puis dire, ouvert vers l'extérieur, vers l'espace public, on avait un théâtre préoccupé par la question du public qui, de plus en plus, se faisait quand même, dont l'absence se faisait de plus en plus ressentir dans les lieux consacrés. Et effectivement, tout ce travail côté jardin, si je puis dire, a été très vite cantonné dans les années 80, parce que justement il sortait le théâtre de ces lieux sanctifiés. Il a été cantonné à l'action culturelle, aussi appelée socio-cul, de ce joli nom que j'adore. Donc à partir du moment où effectivement le théâtre ne parvenait plus à faire venir le public en salle et où il est sorti de ses murs pour le reconquérir, il est devenu finalement soit un genre à part entière, qui est le théâtre de rue et qui dont on connaît le. Soit effectivement, pour ceux qui continuent à faire du théâtre dans l'espace public, je ne vais pas dire dans la rue forcément, et j'en parlerai après, soit plutôt une opération de marketing, de médiation, hein, si on veut dire ça plus joliment, qui était finalement uniquement déployée et subventionnée parce qu'il n'était pas de la culture mais du social, donc avec beaucoup de subventions qui relevaient de la politique de la ville, etc., et qui permettait surtout de faire une médiation artistique plutôt culturelle pour faire revenir les gens au théâtre. Alors moi, j'ai été une fervente militante du théâtre d'appartement avec lequel j'ai commencé, qui transportait le théâtre dans les murs des cités pour finalement recréer ce théâtre-run au cœur de la ville et de la vie citoyenne, c'est-à-dire effectivement un lieu fédérateur où des populations mélangées, en l'occurrence un quartier, se retrouvaient gratuitement autour du rêve et du rire, et ça marchait. Moi, j'ai commencé notamment. Et c'est pour ça que je parlais d'opération de marketing, quand la Coupole, scène nationale de Melun-Sénart, s'est créée avec Jean Nouvel, enfin Jean Nouvel a créé le bâtiment, avec Alain Grasset et Georges Buisson, qui accompagnaient Guy Rétoré au TEP avant, et qui ont été nommés co-directeurs de la scène nationale. Et effectivement, on a joué une soixantaine de fois une pièce qui s'appelait Ton Alliance. J'étais juste comédienne, mais c'est comme ça que j'ai découvert cette merveille qui était le théâtre d'appartement. Mais au départ, c'était vraiment une opération de marketing. C'est-à-dire, en fait, derrière nous, il y avait à la sortie des gens qui faisaient un travail pour que les gens s'abonnent et acceptent ce théâtre qui était au départ ressenti comme tout à fait inutile et il aurait mieux valu un stade de foot. Alors j'ai continué après en faisant du théâtre à domicile avec un Brecht, qui s'appelait le Cabaret de la Grand-Peur, sur une opération pareil marketing du TGP de Saint-Denis autour d'une pièce que montait Jean-Claude Fall, et on a tourné une soixantaine de fois et on a eu 40% de retour en salle de gens qui achetaient leurs billets après notre représentation hors les murs. Donc c'est vrai qu'on était dans cette frontière-là, c'est-à-dire que pour moi on faisait du théâtre, mais pour beaucoup c'était quand même, notamment par rapport à l'institution, quelque chose qui était ressenti comme une sorte de forme dégradée, et d'ailleurs l'État l'a toujours ressenti comme ça, si j'en crois les évaluations de la DRAC, comme une forme dégradée de théâtre. Donc effectivement après, l'évolution de notre société individualiste nous a poussé à réinterroger cette notion de théâtre d'appartement qui est devenue très vite du théâtre de salon. J'ai beaucoup de copains qui font ça, c'est très sympa, on invite les gens chez soi et puis on paye en fait chacun la représentation, ce qui n'était pas du tout le cas du théâtre d'appartement, qui était toujours dans les opérations de gratuité, soit subventionnées par les théâtres, soit subventionnées par la politique de la ville, soit les deux en même temps, etc., etc. Donc effectivement, devant ce repli individualiste qui nous permettait de continuer à jouer ce théâtre qui n'est plus d'appartement mais hors les murs, dans les murs des médiathèques, dans les murs des collèges, des lycées, mais effectivement plus dans les appartements, on s'est posé la question de où aller chercher les gens et où recréer du théâtre dans la rue et non pas du théâtre de rue, puisque c'est pas du tout la même écriture, hein, et la même esthétique, enfin surtout la même écriture et le même type de jeu. Donc on a mis au point des patrouilles de parapluies théâtre, donc qui sont des parapluies décorées par une plasticienne, donc il y a un travail esthétique sur le chapiteau, donc ça fait un petit chapiteau, ce sont des grands parapluies, donc avec des choses qui descendent jusqu'au sol. Je suis désolée, j'ai pas préparé de photos parce que je voudrais arriver aux escape théâtres, donc c'est juste pour faire l'avant. Et effectivement, on peut comme ça recréer un petit théâtre dans lequel les gens viennent, donc à 1, 2, 3, 5. Bon, aujourd'hui, c'est problématique, c'est plutôt 1 que 5, parce que voilà, la pandémie, mais à l'intérieur duquel ils entendent une histoire jouée par un comédien, avec souvent un texte commandé à un auteur, autour, et alors ça, moi, j'aime beaucoup, avec, pas tout le temps, mais beaucoup de commandes à auteur, sur des thématiques, et ça, je trouve ça très bien. Moi, mon maître, c'est Molière, donc je trouve que c'est parfait de répondre à des commandes du roi pour écrire des spectacles, et là, en l'occurrence, ce sont des petits monologues pour des comédiens. Donc, on joue partout, on joue dans la rue, on joue sur les marchés, on joue dans les centres commerciaux, on joue parfois dans les halls de théâtre, on joue dans les bibliothèques, dans la médiathèque, on peut jouer n'importe où. Le seul problème paradoxal, c'est que s'il pleut, on ne peut pas jouer parce que le parapluie n'est pas étanche. Mais ça, voilà. Donc, on a ce petit chapiteau, plus petit chapiteau du monde, qui permet effectivement d'investir des espaces où les gens se croisent pour que tout d'un coup, ils puissent se rassembler, se retrouver, se fédérer, encore une fois, ce qui effectivement est, pour moi, la fonction du théâtre. Donc, c'est vrai que je revendique, et depuis très longtemps, cette nécessité fondamentale et fondatrice du théâtrum, cette fenêtre d'où on regarde le monde, qui ne consiste pas à faire du socio-cul et de l'action culturelle, mais tout simplement à faire un théâtre dont la vocation est de rassembler une population, de rassembler toutes les populations qui s'y retrouvent. Donc, évidemment, je pense que cette notion de catharsis, de ce rituel, sacré qui consiste à transformer la bête en homme, hein, finalement, à travers le théâtre, c'est fondamental. Alors, ça ne m'a pas empêché, bien entendu, de créer aussi des formes en salle, mais ça m'a permis de réfléchir en même temps à ce rapport à un public qui était de moins en moins présent dans les salles de théâtre. Alors évidemment, quand la pandémie est arrivée, après 2 jours, comme tout le monde, de dépression noyée dans des bouteilles de rouge, je me suis dit, alors je venais de créer un spectacle en salle, qui s'appelle toujours Boxing Shadows, d'un auteur contemporain, Timothy Daly, dont j'ai déjà monté d'autres spectacles en salle, dont le bal de Kafka, l'homme dans le plafond. Et au moment où on a créé ce spectacle en salle avec des belles lumières, j'avais quand même déjà dans la tête, je pense, cette idée qu'il fallait décloisonner. Donc, mon décor étant très simple, c'était 3 piliers, 3 piliers travaillés par une plasticienne qui pouvait au bout d'un moment former un ring avec quelques éléments, et 2 comédiens et une chanteuse lyrique. On a pu très facilement, au moment de l'été particulier, on a eu la chance d'être sélectionnés à Paris pour jouer au pied des immeubles, donc en l'occurrence de DHLM, ce spectacle sans lumière, et depuis, C'est vrai que la majeure partie de nos représentations de Boxing Shadow, ce qu'on a joué aussi cet été au Jardin des Carmes, je pense qu'on le rejouera l'été prochain avec le Théâtre des Carmes à Avignon, permet effectivement d'être joué partout en extérieur. Alors effectivement, on n'a pas la lumière, mais ça nous permet d'aller au pied des immeubles, ainsi que d'ailleurs avec d'autres spectacles que j'ai créés, qui peuvent se jouer en salle et hors les murs. Mais ce n'est pas là-dessus que je voudrais arriver. Je voudrais arriver effectivement à ces formes théâtrales alternatives. Donc après cette dépression de 2 jours, et sûrement grâce aux bouteilles de rouge, j'ai pu me dire qu'avec la compagnie, puisque nous sommes une compagnie, et je pense que ça c'est la force des compagnies de terrain, avec une quinzaine de comédiens, dont des musiciens, avec des auteurs, des plasticiens, etc., on a effectivement réfléchi au fait que de toute façon, on avait une nécessité de déconfiner la culture. On était en plein confinement, mais il fallait déconfiner la culture pour sortir de la crise de ses publics. Et que peut-être le confinement était l'occasion de le faire. Donc on a réfléchi en se disant que le seul média qu'on avait, le seul médium, la seule scène qu'on avait, que nous offrait le monde et qui nous permettait de rassembler les gens, c'était cet écran, hein, qu'on est en train d'utiliser, cette merveilleuse technologie de Zoom dont on a parlé tout à l'heure, et que donc il fallait partir de là pour tenter de fédérer des publics et de jouer, je dirais, l'unité du théâtre dans l'éclatement de ces fenêtres de jeu, et surtout de fabriquer du vivant en direct. Alors, je vais y revenir, mais ce vivant est mis en valeur justement par l'interactivité. Je vous propose d'abord de vous montrer le teaser d'un de nos escape théâtres. On en a créé plusieurs, j'y reviendrai, mais juste de vous le montrer parce que c'est très difficile donc il y a 4 comédiens, il y a un comédien qui mène le jeu, donc qui est un personnage, et qui va convoquer avec les spectateurs et pour les spectateurs des comédiens bien sûr filmés qui eux forment des témoignages filmés qui sont ça a été fait avant, mais 3 comédiens en direct qui vont être donc interrogés au fur et à mesure de la présentation par les spectateurs et qui vont donc faire évoluer la pièce. Je vous montre ça tout de suite. Ah, bon, alors, juste, donc voilà, l'idée, c'était, et pour moi, c'est très important, c'était qu'effectivement, dans ce monde de l'éclatement, du simultané, du zapping, du surf, l'idée, c'est effectivement de pouvoir recréer cette position, je dirais, réapprendre aux spectateurs à être spectateurs, c'est-à-dire sortir de ce mode de consommation qui fait aussi, je pense, que le théâtre, quelque part, a perdu le pouvoir de cette illusion comique actante, qui est la nôtre au théâtre, avec celle du spectateur qui travaille pendant le spectacle de théâtre, et que il y a donc presque un aspect pédagogique, parce que à travers ces escapes, donc on en a créé un que vous avez vu là, vous avez vu un petit teaser autour de Sunset Boulevard et de la Cerisaie, je rentre pas dans le détail, on en a créé un autour de Don Juan qui s'appelle Mais qui a vraiment tué Don Juan, on a créé un autour de Lewis Carroll qui c'est pour les enfants, qui s'appelle L'énigme du lapin blanc, avec pour le coup des comédiens qui jouent derrière des images qui s'animent, c'est une technologie d'enfer, mais on a à peu près réussi. Donc l'idée, c'est que le comédien, effectivement, d'une part, c'est véritablement, et j'ai essayé de faire plusieurs publications là-dessus, c'est effectivement véritablement un travail théâtral différent, parce qu'à la fois, on est dans l'improvisation et dans le canevas, bien sûr, mais aussi parfois dans du texte qui doit s'insérer à l'intérieur de notre improvisation, notamment quand c'est du Molière, quand c'est du Lewis Carroll. Là, il y a plein de citations de Tchekhov, de Racine à l'intérieur de Sunset Boulevard. C'est un jeu théâtral différent parce qu'on est entre le naturalisme, je dirais, et du cinéma, et le jeu théâtral avec ça. Son excès, qu'on est toujours dans l'idée qu'on joue à jouer, c'est-à-dire qu'on est avec les gens dans ce savoir, on se sait jouer, ils se marrent très souvent, ils savent en nous interrogeant qu'on est à la fois dans nos personnages et qu'on est très bien en même temps dans un direct réel avec eux qui ne sont pas des acteurs. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent qui moi m'ont beaucoup intéressée, qui à mon avis permettent un autre type d'écriture théâtrale. Donc je vous dis, on en a fait plusieurs différents, on en a même fait des didactiques, pédagogiques, j'ai pas le temps d'en parler, mais qui sont là vraiment un travail sur l'écologie notamment, qui sont des commandes là, mais théâtrales, pour faire réfléchir les gens à l'écologie, où là il y a beaucoup plus de travail entre les spectateurs, etc. Ce que je voudrais juste dire en conclusion, puisque je pense qu'effectivement voilà, c'est que je pense que comme Eisenstein qui disait que le cinéma est le fils naturel du théâtre, je pense que les escape théâtres sont d'une certaine façon un moyen subversif de détourner la soumission aux écrans, en réintroduisant le direct du jeu à travers les écrans, en réintroduisant cette notion de spectateurs qui sont dans une interactivité, mais je dirais de toute façon qu'on a au théâtre, même si on n'intervient pas par la parole comme c'est le cas là, mais on est derrière des écrans, donc il faut recréer ce vivant-là, que c'est effectivement utiliser autrement la vidéo, pas seulement comme on l'utilise au théâtre avec les gros plans de l'acteur qui est en train de jouer, en même temps on voit sa tête, etc., mais avec la narration éclatée des séries, avec le zapping, avec la performance, avec un texte donc qui est effectivement une narration différente. Et je pense qu'on est contraint de réfléchir à cette question du rassemblement du public, que ce soit dans ou hors les théâtres, parce que, bon, comme le dit effectivement très bien Diana Scott dans son livre sur le théâtre et l'industrie culturelle, le remplissage des salles, qui est l'obsession des programmateurs du théâtre public, n'est pas une question économique, mais une question profondément idéologique. L'assemblée théâtrale, en tant que métaphore de la démocratie, ne saurait être vide. Et effectivement, je pense que on est à l'heure où il faut dépayser notre art et le sortir du théâtre, comme disait Copeau, c'est-à-dire pas forcément pour revenir à quelque chose qu'on connaît déjà, le théâtre de très tôt, mais comme l'a très bien montré d'ailleurs Gaëlle Dauphin ce matin, aussi pour refaire un autre type de théâtre hors les murs, de réfléchir à nouveau, de se remettre en question sans passer à côté des outils qui sont les nôtres, et effectivement de recréer avant tout la fonction du théâtre, c'est-à-dire cette création d'assemblée théâtrale, cette fédération des publics, cette façon d'un théâtre nécessaire qui nous permet de mieux regarder le monde. Voilà.
Merci beaucoup Isabelle pour ce double regard à la fois d'artiste et d'universitaire, et notamment ces subtilités entre le théâtre d'appartement et le théâtre de salon, que j'ai trouvé très intéressante, le théâtre de rue et le théâtre dans la rue. Voilà, ce clin d'œil au plus petit chapiteau du monde qui faisait suite au plus petit nez du monde qu'évoquait Catherine Richon aussi. Voilà, et puis sur l'écriture, ça c'est peut-être quelque chose qu'on abordera au moment de la table ronde, d'être sur l'écriture et donc de revenir peut-être sur cet aspect avec les citations de texte écrit et la partie improvisée pour permettre l'interactivité.